Bonsoir à toutes et à tous, à Zulfelawun, à Zulfelakot. On arrive pratiquement à la clôture du festival Tilili, qui est organisé pour la première fois dans la région, à Rouen, qui est, j'allais dire, on est parrainé par le Centre André Malraux, la ville de Rouen, voilà, qui nous avait proposé tout un mois dédié à la culture berbère. Donc on avait commencé au début par une exposition, l'exposition dans laquelle, c'est-à-dire où se déroule justement cette exposition, cette conférence, pardon. Et aussi, oula, je suis un peu ému là aujourd'hui, je suis désolé. Donc voilà, nous avons voulu vous présenter un panel très varié de la culture berbère, à travers des hommes et des femmes qui j'allais dire, activent, soit au niveau artistique ou, j'allais dire, au niveau scientifique. Je suis désolé. Je suis assis devant une
Et vous
grande
se
dame.
débrouille, et il faut qu'il se débrouille quand même,
Voilà.
elle a marché.
Ben oui, non, mais j'ai marché, là, je trébuche. Bon, c'est pas grave, c'est un peu d'émotion. Donc voilà, pour aller droit au but, je suis heureux d'avoir de vous avoir ici. Je dois remercier l'association IDEO qui parraine cette conférence. Tessa Dityassine, on est ravis de t'avoir. Tu as accepté de venir en laissant ton voyage prévu pour l'Algérie, donc on te remercie. Tessa Dityassine est directrice d'études, de hautes études d'anthropologie à Paris. Elle est derrière la création de la revue AOL. Et pourquoi on l'a invitée? Parce que c'est, j'allais dire, parmi les derniers des Mohicans, comme on dit, hein, des Indiens des Mohicans, qui est là, qui veille à la culture berbère, à sa promotion, à sa défense, et aussi à, j'allais dire, à former des futurs anthropologues, des chercheurs. Donc voilà, aujourd'hui elle est là pour nous parler de culture, de la culture, de la sainteté et de la résistance en Kabylie.
Merci.
Voilà, bah écoutez, je préfère peut-être lui laisser la parole et après je vais retrouver un peu ma raison et mes idées. À tout à l'heure. Merci.
Merci à tous d'être là. Je suis ravie d'être encore une fois en Normandie. Et là, évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler d'un objet, d'un sujet sur lequel, finalement, les berbérophones ou les berbères ne travaillent pas beaucoup. En fait, c'est le religieux. Mais pourquoi le religieux? Enfin, j'ai commencé à travailler sur ça, sur ma thèse, mais après, bon, on abandonne la question parce qu'on estime que c'est le passé, c'est une histoire de vieux, que voilà, ça ne peut pas être un sujet, si vous voulez, de réflexion et de motivation. Mais j'avoue que je suis revenue à ce sujet, je dois le dire, en fait, c'est l'actualité qui m'y a menée. C'est-à-dire tout ce qu'on voit aujourd'hui, on nous parle sans cesse de terrorisme, oui, d'islam radical, et en y réfléchissant, enfin, tous ceux qui sont là, en tous les cas les Berbères le savent, mais on sait que c'est en totale contradiction avec ce que les populations, les jeunes, les moins jeunes, ont reçu. Alors, c'est comme ça que j'étais amenée à réfléchir sur un homme, enfin, sur lequel, encore une fois, j'ai travaillé, qui s'appelle Cheikh Mohand. Ce Cheikh Mohand, en fait, c'est un saint hyper connu dans toute la Kabylie et bon, qui était aussi un sage, un poète, un créateur. Bon. Mais simplement, encore une fois, les gens n'ont gardé de lui, comme ça, je veux dire, de façon générale, n'ont gardé que lui, que l'aspect, en fait, religieux. Mais quand on creuse un peu, ben on va voir que ce questionnement par rapport au dogme, ce questionnement par rapport à l'orthodoxie, il n'y a pas que les jeunes d'aujourd'hui, en tous les cas ceux qui contestent, ceux qui résistent à l'islamisme radical, ben ça n'a pas existé d'aujourd'hui. Ça existait avant. Et si on va encore plus loin, mais je vais rapidement, si encore, on va voir que toute l'histoire d'Afrique du Nord a été jalonnée par une résistance. Par exemple, je vous parle très très rapidement, mais après je reviens à mon sujet. Si on prend par exemple aujourd'hui une population qu'on appelle les Mozabites, qui sont dans le sud algérien, eh bien ces Mozabites que l'on critique, que l'on met de côté, qui sont complètement stigmatisés, eh bien faisaient partie d'un empire tout à fait exceptionnel, et cet empire était en droite ligne, en contradiction avec le dogme. Et ils vont régner en Afrique du Nord, et quand ils vont régner en Afrique du Nord, toute leur doctrine porte sur, on va dire, c'est l'aspect le plus démocratique en islam. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord, rejeter la filiation par le prophète. Alors, qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant? Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce qu'il faudrait 2 heures. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant? Eh bien, que le meilleur gouverne, fut-il esclave. Voyez, donc ils vont mettre la compétence au-dessus de la généalogie. Donc cette histoire de sacré, de contestation du sacré, on voit bien qu'elle était contestée dès le départ. Ça, ce sont les Ibadites. Deuxième mouvement très 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 important qui va combattre les Ibadites, ce sont les Fatimides. Les Fatimides sont nés en Kabylie. C'est un empire, c'est un khalifa né en Kabylie et qui va gouverner l'Afrique du Nord, la Tunisie actuelle. C'est eux qui vont fonder Madia, c'est eux qui vont fonder le Caire. Al-Azhar, le Caire, a été un nom donné par les Fatimides. Al-Azhar, la même chose. Il y a aujourd'hui au Caire la plus ancienne des mosquées, Fatimides d'ailleurs, que l'on ne présente, que l'on ne montre pas aux touristes, alors que c'est l'une des plus belles. Elle a été fondée par eux. Et ils vont arriver jusqu'à Jérusalem, jusqu'en Inde. Et pourquoi je vous parle des Fatimides toute la doctrine m'est égale, mais ce qui est important, c'est qu'eux aussi vont contester la descendance par le prophète. Et ils vont revendiquer quoi? La descendance par sa fille. Et c'est très important. Pourquoi est-ce qu'ils vont s'appeler Fatimide? Parce qu'ils vont s'inspirer des méthodes nord-africaines où les femmes avaient du pouvoir, où on pouvait être... C'était une partie de l'Afrique du Nord était matrilinéaire. C'est-à-dire que le pouvoir revient soit à la mère, soit au fils aîné de la sœur aînée, comme aujourd'hui chez les Touaregs. Donc les mères avaient un pouvoir important et qu'elles transmettaient leur noblesse, elles transmettaient leur pouvoir. Et c'est sur ça qu'on va grignoter, c'est sur ça que l'islam orthodoxe va grignoter petit à petit pour arriver au 19e siècle, et surtout, là où il va y avoir un revirement, c'est dans les années 30 avec les ulémas, qui eux se prétendent comme réformistes, mais en réalité c'est des réformistes, mais des orthodoxes quand même. Enfin, ceci dit, c'est juste une parenthèse pour vous dire que la contestation de ce qu'on appelle l'islam radical, ou l'islam plutôt orthodoxe, je préfère ce terme-là, il est plus exact et plus scientifique, on n'a pas entendu. Et c'est dans ce sens que je vais vous parler de Cheikh Mohamed. De ce Cheikh Mohamed, donc, qui est né en Kabylie vers 1800 et quelques, 1830, 1835, et l'état civil n'était pas établi comme aujourd'hui. Et quand on prend ce Cheikh Mohamed, en fait, mais là, faites-moi confiance, je ne peux pas tout vous raconter, quand on le prend, il n'est pas le seul. Il y avait beaucoup d'hommes comme lui, et avant lui, qui avaient imprimé leur marque culturelle locale sur l'islam. Voyez. Donc tout en ayant après accepté l'islam sous sa figure actuelle, mais il n'empêche qu'ils ont imprimé la marque de leur culture, la marque de leur croyance, et il y a eu un syncrétisme populaire. Alors, c'est ça en général, et ce saint en particulier, vont s'inscrire à part entière, tout au moins de façon externe, dans l'islam. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils vont opérer, ce que je viens de vous dire, une alchimie entre le spirituel, le politique et le social. Donc à la fois, ils sont dans le spirituel, mais ils sont aussi des politiques, parce qu'ils avaient des armes contre lesquelles ils vont lutter, contre les saints, contre les politiques de leur époque, et surtout, c'était des gens qui avaient un rôle social très important. Alors, donc, évidemment, la spiritualité, c'est quoi? Tout en se revendiquant de l'islam, ce qui les intéressait, en fait, c'est une expression de soi qui va jusqu'à une forme de contestation du politique qui est porteur d'une vision d'un monde social au leur. Donc, tout ce qui n'est pas eux, ils le contestaient. Euh, je, Je vous donne juste un nom très très simple. On a un type qui s'appelle Lwartilani, 18e siècle, Kabyle, qui va faire aussi son périple jusqu'en Inde, jusqu'en Arabie, en passant par l'Égypte. Donc ces gens qui vont être fascinés par l'Orient au départ, mais fascinés, en se disant, mais voilà, donc la culture. Et donc il va faire tout son périple, et quand il revient, elle dit, non, moi, je ne veux rien avoir à faire avec ces gens-là. Ma culture est ici, mon identité est ici. En fait, il n'y a rien qui me plaise que lorsque je trempe ma galette chaude dans de l'huile. Donc ça, c'est Lwartilani qui a écrit une rihla tout à fait exceptionnelle. Ça, c'est Lwartilani. Et nous avons un grand, donc un autre au Maroc, qui s'appelle Moulay Bouyaza. Bouyaza, donc, qui est dans l'Atlas marocain, il est encore visité jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un des grands saints de son époque. Alors pourquoi je vous raconte ça? D'abord, ce Moulay Bouyaza va être l'initiateur d'un autre grand saint, dont on parle encore aujourd'hui. Il va être l'initiateur de Boumediene, qui a donc son tombeau à Tlemcen, ou près du Tlemcen. Et qui va donc, ce Boumediene, il va occuper la position de Qutb, c'est-à-dire le pôle, dans la hiérarchie mystique. Et ce Moulay Bouyaza va rencontrer le grand Ibn Arabi. Je ne sais pas qui a enseigné à l'autre, mais il va rencontrer Ibn Arabi. Et Ibn Arabi, donc, c'est vraiment un grand mystique, connu et reconnu dans tout le monde musulman. Et ce Moulay Bouyaza, pourquoi est-ce que je vous parle de lui? Ibn Arabi avait reconnu que c'était un très grand saint et l'un des plus grands en Afrique du Nord. Et la réputation de ce Moulay Bouyaza arrive jusqu'en Andalousie, pour vous dire. Mais simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a formé des gens, il va rencontrer encore une fois Sidi Boumediene, qu'il va initier à la mystique. Mais Sidi Boumediene, tout en s'initiant à la mystique sous sa forme berbère, il va rester un théologien, etc. etc. Et ce Boumediene est passé, au Moyen-Âge bien sûr, par Béjaïa. Bien. Mais simplement, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est que je me dis, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on va parler d'Ibn Arabi jusqu'à aujourd'hui? On va parler de Sidi Boumediene qui reste dans la mémoire. Et comment se fait-il que ce Moulay Bouyaza, qui a joué un rôle immense, sera complètement effacé? Je vous le donne en mille. Ça m'a fait réfléchir, c'est ça qui m'a fait réfléchir. Je dis, mais c'est pas possible. Enfin, pourquoi? Parce que tout simplement, il était berbère. Parce qu'il était berbère, et tout ce qu'il disait, toute sa sagesse était dite dans sa langue maternelle, et est resté finalement confiné, et n'a jamais pu être internationalement connu, comme l'ont été les autres, dont l'un qui était son élève. Donc, vous voyez. Et en fait, c'est ça qui m'avait amené à repenser finalement à Cheikh Mohamed. C'était un des grands, reconnu en Kabylie et même par-delà, mais parce que ce qu'il a dit, ses faits et ses gestes, n'étaient connus que par les siens, et finalement, ça a circulé en vase clos. Ça n'a pas franchi les frontières parce que c'était dans une langue qui n'était pas intelligible par les autres. Et en plus, c'était pas une langue qui était combattue par l'arabe, qui était, elle, considérée comme langue sacrée, comme langue de l'islam. Et donc, ces théologiens citadins, parce que citadins, qui est en général orthodoxe, c'est-à-dire qu'ils vont être plus dans la règle que dans le fait, justement, mènent une guerre sans fin, que ce soit contre ce Moulay Bouyaza, si vous allez au Maroc, je vous conseille d'aller visiter sa tombe, que ce soit, finalement, avec Cheikh Mohamed. C'est ça qui s'est passé. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et alors, très très rapidement, alors si on lit un peu la biographie de ce Cheikh Mohamed, vous allez voir qu'il est à la fois, évidemment, dans la sainteté, appelez-la comme vous voulez, mais en même temps, tout à fait en dehors, tout à fait hétérodoxe et tout à fait subversif. Alors, très très rapidement, donc, il va s'inscrire dans ce qu'on appelle de façon grossière le maraboutisme, et encore le maraboutisme en Kabyle, il est ancré, il est enraciné, bref, et c'est toujours un schéma mythique qui est lié à des événements réels, et évidemment, l'histoire, la légende fait commencer le monde avec eux, comme si tout est né à partir d'eux, bref. Et donc, évidemment, on a deux types de marabouts en Kabylie, des marabouts morts, c'est-à-dire tout en étant mort, ils continuent, enfin c'est comme Sainte-Thérèse de Lisieux ou autre, c'est-à-dire tout en étant mort, ils continuent à donner de la baraka, hein, une bénédiction si vous voulez, mais on a aussi des marabouts vivants, c'est-à-dire que l'on va côtoyer, que l'on connaît, et qui peuvent se reproduire par la descendance. Donc, la baraka se transmet aussi par le corps. Bon, je vais rapidement au chir parce que sinon je vais vous perdre. Alors, comme je disais tout à l'heure, il était né vers 1830, décédé en 1901 dans un hameau qu'on appelle Aïtiria, près de Michelet. Et donc, sa pratique se situe entre ce qu'on appelle la prophétie au sens de Max Weber, la prêtrise et le fait donc d'être agourem. Agourem, chez les Berbères du Maroc, ça existe. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui soigne, c'est quelqu'un qui protège et c'est quelqu'un donc qui est proche de sa population. Alors, nous avons aussi d'autres termes pour ce genre de pratique. Mais je passe. Alors, donc, dans l'univers kabyle, le marabout, c'est pas simplement celui qui est un père marabout, c'est aussi le marabout timsakier. Donc, c'est celui qui manie et manipule la langue, celui qui détient la culture, celui qui connaît la poésie, celui qui détient la tamousie, c'est-à-dire la sagesse au sens grec, celui qui a le mystère des mots, de l'âme et du corps, et enfin, la philosophie fondatrice du monde. Poète, devin renommé, thaumaturge, usant d'un langage châtié, serti de paraboles, que seuls les initiés sont à même de décoder, Cheikh Mohamed donc est la référence même de la culture et de la philosophie kabyle. Il est également faiseur de miracles, même s'il se refuse. Ce maraboutisme, pour Cheikh Mohamed, n'est pas, comme je viens de vous le dire, une affaire de généalogie, mais bien un mérite, une grâce, une élection divine, malgré le foisonnement de constructeurs de généalogie à des fins de domination. Je veux dire tout simplement, à son époque et même avant, eh bien, il y avait des gens qui se fabriquaient une généalogie pour occuper cette position de marabout. Mohamed est ici un élu. Il a été visité par le souffle divin. Ça, vous n'y croyez ou ne croyez pas, mais en tous les cas, c'est ce qui se dit. Il ne se revendique pas de l'ascendance maraboutique. Et là, c'est impressionnant. L'ascendance maraboutique par sa mère et non pas du tout par le père. Il est donc Mohamed se situe en apparence, comme je viens de le dire, dans l'orthodoxie musulmane, mais en réalité, c'est une forme d'hérésie au sens des dogmatistes, car il est celui qui ne croit pas en des règles toutes faites, mais plutôt en des règles évolutives adaptées à la société humaine. Et dans sa perception du religieux, la novation et l'innovation se croient, se conjuguent. L'essentiel pour lui réside dans la poursuite, la recherche et la poursuite de l'intérêt collectif et notamment du bien-être de ces paysans démunis en cette fin du XIXe siècle dans une montagne soumise aux affres et à la dévastation de la colonisation. Donc voilà, et il y avait évidemment, seule la voix des maîtres soufis pouvait faire barrage au désastre. Mohamed, qui ne pouvait pas résister de manière frontale aux Français, va cependant fournir à ses contemporains et aux générations montantes des armes symboliques à travers un discours ésotérique, des pensées et des poèmes chargés de sens et d'espoir. Cheikh Mohamed donc est intéressant pour moi parce qu'il a été l'un des témoins de la pénétration française. Il va écrire des choses là-dessus, 1850, enfin, pas écrire, dire, et du changement social, politique et mental que cette intrusion va opérer. La sainteté, comme je vous le dis, étant héréditaire, mais Mohamed l'est par hérédité, mais ne se revendique absolument pas de ça, il y a que Mohamed et sa sœur, incroyable mais vrai, qui en bénéficient, comme je viens de le dire, par filiation maternelle, et donc cet héritage va marquer les mémoires parce que il a été réactivé par Mohamed et plus tard par Fatma, dont on ne parle pas du tout. Là aussi, vous voyez, le machisme musulman orthodoxe y est pour quelque chose. Alors, quelques mots sur sa vie. Mohamed était d'abord berger, puis il est devenu derviche errant, au sens de celui qui va fréquenter les saints, les mausolées, en quête d'initiation. Donc, c'est un petit berger. Et il va fréquenter les saints parce que c'est la sainteté, c'est une attraction. Attraction au sens, pas attraction, mais une attraction, c'est-à-dire on est attiré au sens propre. Il va passer donc une partie de sa jeunesse dans cette vie errante avant de rejoindre une confrérie. Cette confrérie s'appelle la Rahmania. Elle est puissante, elle va recouvrir toute la Kabylie en cette fin du 19e siècle. Elle va jouer un rôle politique important. C'est d'ailleurs grâce à elle qu'il y aura l'insurrection de 1871. Ce lien avec la confrérie va s'établir, comme d'habitude, par un cher, un autre cher, donc un supérieur, un Mokaddam, qui s'appelle Cheikh Ahdal. Donc il va fréquenter ce cher pendant un temps. Et puis, un jour, il prend du recul. Il prend du recul par rapport à son supérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va inventer un propre rituel. Son propre rituel. Il va commencer à... À recruter du monde. Voilà. Et cette façon de faire était naturellement contraire aux règles de la confrérie. Et Mohamed, il s'en fichait complètement. Pour lui, il n'y a que l'esprit qui compte. Et lui, il dit que les actes sont plus importants que les professions de foi. Et voilà. Alors il dit, le travail relève de ce qui élève l'individu vers l'adoration de Dieu. Il dit, et homme, celui qui plante, celui qui construit et celui qui berce. Vous voyez, une définition de l'homme. D'ailleurs, on retrouve à peu près la même chose chez les Grecs. Mohamed. Et bien sûr, il adhère à ce qu'on appelle l'ihsan, les vertus, la bienfaisance, à la générosité, au partage et à la protection du plus faible. Il prend donc la sainteté dans ce qu'elle a de plus noble. On peut donc considérer que la démarche dont s'inspire Mohamed participe de ce qu'on appelle la philosophie de l'action. Ce qu'il effectue tous les jours, et repenser à tous les instants comme s'il s'inscrivait dans une démarche réflexive. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait est repensé et, objectivé parce que, pour lui, les actes et les pensées ont un sens. L'agir, pour lui, ne doit pas être automatisme, mais avoir du sens conforme au bien-être collectif. Les faits et les dires du shir sont donc des actes dotés de logique sociale, est susceptible d'être généralisé. En reprenant le monde de façon critique et distanciée, il arrive au Cheikh Mohamed de livrer une approche très différente de la perception commune de ses contemporains. C'est ce qui est survenu donc avec Cheikh Ahdev. Il le voit venir un jour, il croyait que c'était un simple affilié, alors que Mohamed était déjà lui-même au Qaddam. Alors Cheikh Ahdev l'accueille et lui dit: mais dis donc, Mohamed, mais qui t'a institué Mokaddam? C'est-à-dire, qui a fait de toi un chef de confrérie? L'autre lui dit, mais c'est Dieu. Vous voyez? Donc voilà, cette réponse cinglante va consommer la rupture entre les deux hommes. Et là aussi, ça symbolise un peu ce qui s'est passé avec le propre père de Mohamed. Je vous vais raconter l'histoire. Un jour, de neige, il faisait très froid, comme la semaine dernière, il y avait de la neige et Mohamed arrive chez lui. Avec des copains. Il arrive, il était tout content, il chantonnait, et son père le voit arriver de loin. Il lui dit, Mohamed, qu'est-ce que tu fais là? Mais bon Dieu, nous, on crève de faim, et toi, tu nous en ramènes des invités. Alors, et c'est Mohamed lui répond en vers. Il lui dit, son père s'appelle Mohamed l'Arbi. Il lui dit, oh Mohamed l'Arbi, des Zayt al-Husil, ça c'est leur nom. Aussi vain qu'un panier de figues. Alors pourquoi vain qu'un panier de figues? C'est-à-dire les figues, ça ne dure pas longtemps. Vous achetez des figues, on cueille des figues à 8h du matin, à 11h, elles sont plus bonnes. Aussi vain qu'un panier de figues. Qui insulte des autres sans les connaître. Je jure qu'un jour, tu diras, par Dieu, cet homme est un nouveau prophète. C'est-à-dire, en parlant de lui, c'est-à-dire, tu as insulté mes amis, mais je sais qu'un jour, tu diras, cet homme est un nouveau prophète. Vous voyez? Et l'histoire, en fait, effectivement, va le confirmer. Alors donc, tout est dit, signifié par cette phrase lapidaire, comme si le jeune Mohamed était sûr de sa destinée. Son charisme ne va pas tarder à gagner toute la Kabylie. Il est effectivement connu comme un intercesseur, un second prophète, il le dit, Nvi Wissin, qui protège et guide les siens. Le shirk devint donc célèbre et des foules entières envahirent le village. Certains en quête d'initiation, d'autres de conseils, mais aussi de protection, et pour beaucoup de nourriture. Nous sommes donc Vers les années 70 jusqu'en 73, c'était des années où il faisait très froid et les gens manquaient beaucoup de nourriture et ils nourrissaient jusqu'à 300 à 400 personnes. Et il est donc tel ce phare, selon une autre prophétie d'un de ses maîtres, qui lui a signifié un jour que son initiation était achevée. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Fou des Athériens, va, je fais de toi le phare des terres et la clé des portes. Phare des terres, c'est-à-dire c'est celui qui va, c'est celui dont la pensée va illuminer les autres. Et clé des portes, on dit donc des cinq villes que ce sont des portes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller chez un marabout et revenir sans régler votre problème. Ils ont toujours une issue aux questions qu'on leur pose. Donc c'est pour ça que c'est une clé des portes. Alors, rapidement, donc, outre cela, dans la sainteté de Mohammed, il y a de l'utilité, de la pratique et une valeur mystique. Alors donc, il y a évidemment cette mission de Mokaddem, celui qui conseille, celui qui assure la cure des corps et la cure des âmes, il soigne les gens. C'est celui qui a le verbe haut et en rime, c'est-à-dire il parle généralement qu'en vers, et en fait ce sont des vers des fois hermétiques, et il dispose du don de vaticination, c'est-à-dire qu'il il est médium, quoi. Il est en fait orthodoxe face aux charlatans, mais hétérodoxe par rapport aux dogmes, aux règles de l'islam canonique. Et c'est cette question qui m'intéresse, et je pense que vous aussi. Alors, Mohand place la justice, l'égalité et le pragmatisme au-dessus de tout, fût-ce au détriment des principes religieux. C'est ça qui m'intéresse, et c'est pour ça que je suis venu vous parler ici. Les aspects les plus importants qui caractérisent sa sainteté sont l'accomplissement sincère de ses devoirs, sa compassion pour tout être humain, sa modestie, son renoncement à tout esprit de haine et de vengeance. Et pour lui, les Français, il faut le répondre avec de la logique, oui, de l'intelligence, mais jamais tuer l'autre. Et le détachement qu'il éprouve à l'égard des biens de ce monde, l'ouverture d'esprit, la compréhension et le désir du salut universel. Là, on est en pleine mystique chrétienne, je dirais. Et Dermingham, c'est un grand chercheur de cette époque qui a beaucoup travaillé sur l'islam maghrébin. Et c'était ce qu'on appelle aujourd'hui un chrétien de gauche. Donc, hein. Et donc, il militait en fait pour la rencontre entre le christianisme et l'islam, en disant que finalement, le vrai christianisme, c'était le christianisme d'Orient. Parce qu'il y avait effectivement toute une philosophie dont le christianisme aussi, avec le temps, s'est débarrassé de toute cette philosophie ancienne. Alors, que nous dit donc Dermingham ? Il dit, j'ai recueilli à Michelet ces Ifrah Kabil qui donnent une idée de la conception du saint dans ce pays. Donc pour Dermingham, c'était vraiment quelque chose. Est-ce que vous pouvez vous taire, ça me gêne. Messieurs au fond.
S'il vous plaît, derrière.
Alors donc, déjà Dermingham, qui est lui-même chrétien, qui connaît très bien la chrétienté, qui connaît très bien l'islam, mais qu'est-ce qu'il dit ? Il était impressionné par la conception de la sainteté dans ce pays. Il s'agit, dit-il, d'un saint mort en 1901, donc de Cheikh Mohammed, et il interroge Cheikh Juan. Les Juan, ce sont les disciples. Et il dit, mais où sont les Aoulias ? Ce sont les saints. Il dit, ce sont les disciples qui répondent. Ils sont sur les montagnes, ils gardent, ils veillent le pays de leur regard sans fouler du pied. Dès qu'ils voient une injustice, ils tâchent de la réparer. Et Cheikh Mohammed, qu'est-ce qu'il fait ? Ça, c'est Dermingham qui le rapporte. Pour souligner l'utilité pratique des saints, en même temps que leur valeur mystique, Mohammed dit, moi je dis, les saints, mais ils sont dans leur maison, ils sont occupés à la grande guerre sainte. Alors je vous donne en mille ce qu'est la grande guerre sainte pour Cheikh Mohammed. C'est pas du tout le djihad, mais pas du tout. Eh bien, la grande guerre sainte, c'est l'égoïsme. Voilà. Djihad, c'est l'égoïsme. Allez combattre l'égoïsme, eh bien, vous aurez fait le djihad. Alors, il dit, les saints, ils labourent, ils devraient subvenir aux besoins de leur famille. Et donc, c'est comme ça, selon lui, la conception de la sainteté. Et alors, il y a aussi une autre entorse à la règle musulmane. Alors, les Kabyles ont un proverbe qui dit que celui qui veut visiter un saint, ben qu'il commence par les siens. C'est-à-dire qu'il commence d'abord par les gens de la maison. Et là, justement, pourquoi je le dis, c'est au sujet de quoi? C'est au sujet du pèlerinage. Vous savez que le pèlerinage à la Mecque, c'est le cinquième pilier de l'islam. C'est pas une obligation, mais en tous les cas, c'est un des piliers. C'est bien d'aller en fin de vie visiter la Mecque, mais à condition d'en avoir les moyens. Et c'est dans cet esprit, justement, pour Mohamed, c'est accessoire. Pourquoi? Et on le voit, justement, lorsque son propre fils, Mohamed, cher Mohamed, a un fils qui s'appelle Mohamed El-Arbi. Son fils, qui n'a pas la même formation que le père, décide un jour d'aller à la Mecque. Mais il revient en chemin, je ne sais plus ce qui lui est arrivé. Et son père dit non. Ben non, je ne l'autorise pas à aller à la Mecque. Et pourquoi? Voici, je vais vous le dire. Alors donc d'abord, c'est le fils qui s'exprime en vers. Qu'est-ce qu'il dit? Oiseau, sois mon héros, ébranle-toi et vole haut jusqu'à Médine. Salue-y pour moi le tombeau du prophète et dis à l'envoyé bien-aimé, moi je veux, mais mon père refuse. Alors le père répond, Mohamed veut le pèlerinage, nous voulons qu'il s'accomplisse. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore homme et qu'il n'a pas les moyens, donc il ferait mieux de rester chez lui. Alors, le saint s'est opposé, pourquoi? Parce qu'il jugeait que la visite à la Mecque était superfétatoire, c'est-à-dire n'était pas nécessaire, et que c'était les obligations les plus importantes exigeaient la présence de chacun au village. Et suprême manifestation de la domination de Mohamed Jouy, il juge que Mohamed El-Arbi n'est pas un homme accompli. Le verdict donc du père est cinglant et sans appel. Et il sait très bien. De plus, le pèlerinage, il est en dernière position, comme je vous dis, le dernier pilier de l'islam. Donc, ce n'est absolument pas obligatoire. Et c'est comme ça qu'il a empêché son fils d'y aller. Mais c'est encore plus loin. Et pourquoi? C'est aussi pour lui, la générosité, eh bien, passe le pèlerinage. Et Mohamed, justement, comme je vous dis tout à l'heure, eh bien, c'est un homme pragmatique. Et c'était un homme pieux, certes, mais détaché des richesses de ce monde, mais n'empêche qu'il cultivait, il avait des milliers d'arbres, il construisait des édifices, tout ce qu'on voit là, c'était lui qui les construisait, il était avec les maçons à travailler. Et pourquoi? Il dit, par Dieu, je ne possède pas pour posséder, mais pour aider. Et là, ça renvoie tout à fait à la vision kabyle, ben, les riches devaient donner aux pauvres. Il n'y a pas une maison de riches, par exemple, qui ne partage pas, qui ne prend pas, ça c'est la règle, hein, en charge les orphelins. Et ça, là aussi, on va encore plus loin, chez les Ibadites dont je vous ai parlé tout à l'heure, les Mozabites par exemple, jusqu'à ce jour, eh bien, les riches doivent marier tout le monde. C'est les riches qui payent le mariage de tous les pauvres, c'est les riches qui payent les circoncisions de tous les pauvres, c'est les riches qui participent à reconstruire les cimetières, le village. Donc un riche ne peut pas être riche et rester dans le village sans développer son village. Donc c'est vraiment la règle, une règle chez les Berbères qui existe de tout temps. Et là, cher Mohamed nous la rappelle un peu chez lui. Alors très très rapidement, si je suis bavard, donc alors qu'est-ce qu'il dit pour les gens qui viennent lui rendre visite? Il dit, celui qui veut apprendre, je l'instruis. Celui qui veut manger, je le nourris. Et là, comme je vous ai dit, il nourrissait tout le monde. Et quelle est donc la définition du propre chir de la sainteté? Il dit, en quel lieu résident les saints? Ils sont dans le village à se soucier et lutter pour que les leurs aient pain et viande, pour que vivent leurs amis, leurs parents. Ils ont plus de mérite que s'ils allaient en lointain pèlerinage. Vous voyez? On fait ça ici et ce n'est pas la peine d'aller là-bas. Donc, il y a aussi, là, je vous dis, il y a une image un peu christique, parce qu'il dit, finalement, on ne devient qu'un saint qu'après avoir souffert et après avoir bu amère potion. Ou alors, qu'est-ce qu'il dit? Des saints, ils se dressent en sentinelle sur les monts et ploient comme des ressorts, leurs yeux pleurent comme des gouttières. Qui ne s'est assis en cercle avec eux, jamais ne sera visité par le souffle. Bref, et autre chose aussi, là, incroyable mais vrai, oui, il était évidemment contre les grimoires, contre les talismans, contre tout ça. Alors, un fait encore important, que j'ai relevé, mais il y en a beaucoup d'autres, Par exemple, face à la mort, on sait que lire des versets du Coran quand il y a un mort est la règle. La règle est un peu partout, partagée par l'ensemble, je sais pas, du monde musulman, en tout cas l'Afrique du Nord, c'est ça. Et donc, malheureusement, le fils de Cheikh Mohammed tombe malade, il arrive à mourir. Et ses disciples viennent le voir, il lui dit, Cheikh, viens avec nous, nous sommes, on se réunit pour lire des versets parce que Mohammed est mort. Alors qu'est-ce qu'il dit? Si Mohammed el-Harbi a pris soin de bien agir, il n'a pas besoin de verset. Mais s'il n'a pas pris soin de bien agir, nul verset ne lui servira de rien. On ne peut flatter l'au-delà. Vous voyez, c'est une transgression tout à fait. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est du côté d'une justice profonde, d'une loi profonde, et non pas du tout des manières de faire ou d'une règle purement externe à l'homme. Alors, pareil, la prière, on vient le voir aussi, toujours ses disciples. En fait, c'est incroyable. Imaginez un peu la Kabylie, comme un peu ce qu'on raconte de la société grecque d'autrefois. Les disciples se réunissent toujours et s'interrogent et interrogent sur les choses de la vie, sur tout. Et ici, ils s'interrogent sur la prière. Alors, donc, ils viennent le voir. Il lui dit, voilà, ça fait 8 jours qu'on discute, on n'arrive pas à trouver d'issue. Qui est le plus important, la prière ou la vérité? Alors, que répond le cheikh, évidemment? Eux, ils s'attendaient ils avaient déjà une réponse, en fait. Donc, le cheikh qui dit, à quoi bon la prière lorsqu'existe la vérité? La vérité est au-dessus de tout, elle est en chacun, alors que la prière, et il ajoute aussi, la prière est une rémission des péchés, l'aumône une sauvegarde. Ou alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais finalement, la prière, c'est quoi? C'est tambour au vent. Vous mettez un tambour et vous le laissez. Vous allez voir qu'il va s'agiter. Il fait du bruit. Mais est-ce que il y a un sens? Ben non, il n'y en a pas. Alors donc, voilà. Il dit donc c'est un bruit, etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez. Alors pour lui, c'est ce qui compte, c'est au fond de lui. Et là, c'est Cheikh Mohammed qui le dit. Mais finalement, en creusant un peu, je me dis, bon. Finalement, ce cheikh est exceptionnel, il était fou. Au jour d'aujourd'hui, je crois que, je crois qu'on ne le laisserait pas en vie. Mais je rencontre un autre type du 12e siècle qui s'appelle Ahmed Rifai. Je pense qu'il est égyptien, mais bon, mais qu'importe. Et il fait partie des derviches hurleurs. Donc, Cheikh Mohammed est un peu comme lui. Alors, Ahmed Rifai, qu'est-ce qu'il dit? Que la charité valait mieux que les génuflexions et les prières. Voyez? Donc, voilà, c'est des idées qui courent à cette période-là. Pareil, bon, là, je parle de ça. Il y a aussi autre chose. Quand les Français sont arrivés, bon, voilà, Cheikh Mohammed était là, on va invoquer les saints, etc., etc., on va aller le voir. Et puis, il voyait bien, lui, que le rapport de force était inégal, c'était pas la peine d'aller se tuer pour rien. Bon, mais en tous les cas, les gens n'entendaient pas raison. Alors on vient le voir, on lui dit, mais cher, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, ces Français-là, est-ce qu'ils vont rester? Alors lui, il ne dit rien, mais il lance une prophétie. Et alors là, vous allez voir, c'est impressionnant. Je jure par Dieu que l'épreuve ne prendra fin, que quand se lèveront des hommes d'honneur, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'hommes d'honneur, les Français sont entrés en été, ils sortiront par la force en été, avant l'automne. Et la volonté de Dieu s'accomplira. Effectivement, les Français sont rentrés en juillet 1830 et l'indépendance a été signée le 5 juillet 1962. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Voilà. Voilà. Bon, alors je passe rapidement. Ça, c'est les grands trucs de Cheikh Mohammed. Mais il va aussi intervenir dans tous les aspects de la vie quotidienne. Les gens allaient le voir pour un oui ou pour un non. Voilà. Et il y avait on dit hein, qu'il y avait des féodaux locaux qu'on appelle Afrasis. Ces Afrasis, enfin, si vous allez avec votre cheval et que vous passiez par leur champ, si par malheur le cheval a brouté un peu d'herbe, ben on fait descendre le cavalier et on le fait marcher sur des épines. Parce que même un animal ne doit pas toucher à leur bien. Alors donc, ces fameux êtres assis, bien sûr, c'est des féodaux, comme je vous dis, et des tyrannos, ils prenaient tout. Ils prenaient tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils voulaient. Et surtout, évidemment, parmi les belles choses, les femmes. Alors, à chaque fois qu'il y avait des femmes dans une tribu qui leur plaisait, ils les épousaient. Mais pas tout, ça c'est, on va dire, ça c'est classique. Donc. Et quand une femme leur plaisait, non seulement ils l'épousaient, mais quand elle leur plaisait plus, ils la divorçaient pas. Elle restait là, ce qu'on appelle en capille suspendue. Comme le pendu du tarot, vous voyez. Il la garde, elle n'est pas divorcée, elle n'est pas mariée. Voilà, donc voilà. Il la garde ainsi pendant 7 ans. Et le père de cette jeune femme commençait à s'inquiéter parce qu'il était vieux, il ne voulait pas laisser sa fille dans cette situation-là. Il va aller voir, rien à faire. Il va voir le Cheikh Mohamed, qui essaie de discuter avec eux. Ils disent, oh Cheikh, ça ce sont nos coutumes. C'est-à-dire, leurs coutumes sont sacrées et on n'y revient pas. Bon, ils laissent le temps courir. Un beau jour, donc, eux-mêmes, vous voyez, eux-mêmes, avaient un souci, ils vont le voir. D'accord, il les reçoit bien, comme des féodaux, normal. Et le lendemain, ils se lèvent. Ils trouvent que leurs chevaux sont mal harnachés. La sangle est vers la croupe est vers le devant. Bon. Ils vont le voir. Ils disent, Cheikh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui se passe là chez toi. C'est pas comme ça qu'on a laissé nos chevaux. On ne peut pas partir comme ça. Alors que dit le Cheikh? Attendez, je vais vous dire. Il leur dit rien d'autre, hein, mais il les combat par des mots. Je croyais que c'était votre manière de sceller les chevaux. Vous l'en signifiez par là. Quand les Aïtracés revendiquent le droit d'avoir une coutume particulière à eux, ils la faisaient à leur avantage. Mais, dit-il, il y a des conditions qui sont communes à tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a qu'une façon de sceller les chevaux avec la sangle avant vers le poitrail et la sangle arrière vers la croupe. De la même façon, il y a une voie juste, valable pour tous. Donc pour lui, voilà. C'est ce qui est universel, général et généralisable qui compte et non pas du tout, inventé des lois. Voilà. Donc c'est très très important. Et un autre pareil, là aussi, on va dire, qui transgresse le code kabyle. Et Dieu sait qu'il le connaît. C'est un jeune homme qui va le voir parce que son père l'avait exhérédé. Son père lui dit, écoute, tu n'arrêteras de rien du tout. Et il va courir à chaque fois au Cheikh, mon Dieu, mon père, mon père, mon père. Et que fait le Cheikh? Il ne s'adresse pas à lui. Il avait des pigeons. Il donnait du grain aux pigeons et il leur parle. Il lui dit, pigeonneau, adresse ta demande à ton créateur, pas à ton géniteur. Le type est parti, est reparti. Et à la fin, le Cheikh, il s'était énervé. Il lui dit, sot, qu'est-ce que je ne cesse de te répéter depuis tout à l'heure? Quand je disais au poussin de s'adresser à son créateur, non à son géniteur, c'est à toi que je parlais. Alors, va, sors du pays pour gagner ta subsistance et méprise ton père. Ben, c'est ce qu'il a fait, il est parti, il a gagné sa vie, etc. etc. Et il a pu se passer du joug du père. Pareil aussi pour une femme, je vous laisse sur ça. Et il y a aussi un autre aspect qui peut intéresser ici, s'il y a des écolos parmi vous. Ben, Cheikh Mohamed avait une vision, évidemment, il y a le village. Mais pour lui, le village, c'est l'humanité. L'humanité, c'était son village, vous voyez, c'était comme un laboratoire. Et donc, comme je vous disais, on se pose des questions sur tout, mais surtout, là je vous donne un résumé, et juste ce qui peut vous intéresser. Alors donc, on va lui dire, mais cher, la fin des temps, c'est quoi? Alors il répond, à la fin des temps, survivront les hommes des forêts, suivez mon regard, hein, ceux des pays irrigués, donc le Sahel, adieu, et les sans-industrie. C'est un plan contre la pollution, contre le capitalisme libéral. Donc vous voyez, les hommes des forêts, donc ils sont autonomes, ils se suffisent à eux-mêmes en mangeant ce que la forêt leur donne. Ceux des pays irrigués, évidemment, ceux qui ont de l'eau, c'est plus facile pour eux de cultiver. Et les sans-industrie, évidemment. Là aussi, c'est signe d'autonomie. Là aussi, il dit, à la fin des temps, survivra le paysan avec ses enfants. Donc, en retour à la paysannerie, voyez. Alors là, je peux vous dire, je ne sais même pas s'il a mis les pieds à Alger, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a quitté le village, d'ailleurs, voyez. Et Et donc, je ne sais même pas s'il savait ce que c'était que l'industrie, mais en tous les cas, il a une idée très précise. Alors, donc, bon, j'aurais beaucoup de choses à dire. Simplement pour vous dire, ce qui compte pour le CHIR, c'est la vérité, ce n'est pas le code, ce n'est pas la règle, mais en tous les cas, l'esprit. Donc, si on est dans la voie, dans cette voie, on n'a pas besoin de loi. La dimension donc révolutionnaire dans sa vision permet de retraduire les grandes lignes de la sainteté locale spécifiques au nord de l'Afrique, et ce sont donc ces lignes-là qui établissent une continuité dans les pratiques. Et je passe très 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 rapidement. En fait, cher Mohand, il a ce fils unique qui est mort, qui s'appelle Mohand al-Arabi. De toutes les façons, il n'était pas initié, il ne pouvait pas accéder à la sainteté. Mais qui succède au cher Mohand? C'est sa sœur. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Ce n'est pas les ulémas d'aujourd'hui qui vont élire une femme. Non mais c'est vrai, c'est une femme et elle est donc chef. Elle est chef et dans la mystique, c'est l'avant-dernier. Elle n'est pas avant-dernier. Attends, là, ça va me revenir. Elle est le sauveur. Elle porte les malheurs de l'humanité sur ses épaules. Vous vous rendez compte? Et elle faisait aussi des poèmes. Elle lui rendait visite, etc., etc. Et alors là aussi, aspect révolutionnaire dans cette femme-là, c'est qu'elle n'a pas voulu se marier. Dans son jeune âge, elle n'a pas voulu se marier. Le jour de son mariage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'enferme dans sa chambre et elle met deux colombes qu'elle attache, elle les met dans sa plat et elle se sort par la fenêtre. Et les colombes faisant du bruit, on avait pensé qu'elle était là, alors qu'elle n'était pas là. Et on attend qu'elle sorte et puis finalement casse la porte. Et Fadma n'était pas là, elle avait pris sa liberté. Bon, la norme la retrouvera, c'est comme ça qu'elle va se marier, avoir des enfants. Et c'est elle. Aussi Naït Ahmed descend de cette femme-là. Voilà, c'est son ascendante. Vous voyez, et c'est pas, il ne descend pas d'un homme, mais d'une femme. Et ça, c'est très, très important. Et on voit là, évidemment, qu'on vous le dit aujourd'hui, non, mais en Afrique du Nord, il y a beaucoup de saintes, beaucoup plus qu'on le croit. Il y en a encore aujourd'hui, mais on ne les connaît pas. Mais le dogme, justement, nous a ni un voile, hein, le voile il n'est pas seulement comme ça, il est aussi comme ça. Donc ce voile-là a fait que on n'a pas vu la présence de ces saintes. Déjà 1171, Sicar signale Lalla Fatima, fille du grand maître de Rahmania, sorte de prophétesse à la réputation guerrière, qui fut capturée justement dans le village de Mohand, et elle avait un trésor qu'on va retrouver, donc je vous renvoie à Sicar. Toujours cette même période, une autre femme qui était veuve, qui s'appelle Khadija bint Bilkanoun, et pareil, là aussi, il dit, elle s'était jetée, c'est lui qui le dit, hein, jetée dans la dévotion, elle devient aussi Muqaddima d'Rahmania, c'est-à-dire aussi chef d'une confrérie. Donc vous voyez, c'est très très important. Au cœur d'Alger, on évoquait alors, il y a seulement 50 ans, Imma Zineb, Nana Aisha Ablida, toujours à Blida, chez les Blissalah, Imma Tiflout, Lala Tegendout, Lala Stiet Lemsen, en Kabylie, Imma Karma, qu'on visite jusqu'à présent. Les gens ne le savent pas. Je l'ai découverte il y a un an et demi. C'est une prêtresse de la musique et de la jeunesse et des jeux. Alors les villageois vont lui rendre visite et on fait la fête. On fait la fête, on dit, bon voilà, en hommage à Lala Karma, qui est donc leur sainte, complètement païenne, mais voilà, pour les jeux, la musique. Et tout ce qui est bon, tout ce qui est léger, quoi. Et beaucoup de chanteurs sont issus de ce village-là. Bon, ça, on ne le dit pas aujourd'hui, mais si vous voulez, je peux vous y amener. C'est un endroit très agréable. Voilà. Et Imma Gouraya Bejaya, jusqu'à ce jour, on l'honore par des pèlerinages. Imma Houa, dans la région de Ténès. Alors, au Maroc, les gens qui connaissent le Maroc, si vous allez du côté d'Imintanout, eh bien, il y a une sainte qui s'appelle El Aziza, c'est une prêtresse de la chasse et de l'amour. Et on l'honore jusqu'à aujourd'hui. Et Jacques Berck, d'ailleurs, s'en revendiquait. Le fils de Berck se revendique El Aziza. Donc vous voyez que ce n'est pas encore Lalla Ta'alla jusqu'à présent dans la région d'Agadir. Ce sont des semaines entières où on vient lui rendre visite. Enfin bref, je vous passe. Je n'ai pas à vous convaincre de ça. Je peux vous envoyer le texte si vous voulez. Alors, tout ça pour dire que, eh bien, que la résistance à l'orthodoxie a toujours existé. Elle a existé par des pratiques, c'est-à-dire que les populations se reconnaissaient dans ces saints et ces saintes, qu'ils allaient les honorer, bon, comme on honore tous les saints du monde entier, que ce soit en Afrique du Nord ou même en Afrique, et que ce soit, évidemment, des saints, de la tenue de Cheikh Mohammed, qui était très, très, très important. Mais en tous les cas, des gens qui voyaient le monde ainsi n'étaient pas des isolats. C'est ça que je veux dire. Et moi, je crois, et là, si on enseignait ce type de pratique, si on essayait de réconcilier les jeunes avec les pratiques de leurs ancêtres en disant, bon, voilà, un peu... Moi, je crois qu'on n'irait pas vers ces dérives. Et une sainte, excusez-moi, une sainte aussi, qui a pris... qui vivait toute seule, etc. Jusqu'après, donc elle était... Elle est... Alors, tout ce qui l'entourait, il était interdit de toucher aux arbres, interdit de toucher à sa tombe, interdit de tuer les animaux, interdit de dénicher les œufs de perdrix. Si c'est pas déjà une écologie avancée, c'est quoi alors? C'était des gens pour qui le monde extérieur a été doté de vie. Bon, on peut dire que c'est de l'animisme, mais ça m'est égal. En tous les cas, ça rejoint le programme d'aujourd'hui et c'est très important. Et même, je veux dire, l'animisme, on n'a pas le droit de rejeter ça au nom de l'évolutionnisme. C'est-à-dire que les sociétés anciennes, il y avait beaucoup de choses à tirer de leur expérience, de leur vie, de leur mode de vie. Voilà. Et c'est, comme dit Cheikh Mohammed, les populations jusqu'à nous ont survécu sans industrie, sans tout ce que nous avons. Et ce n'était pas forcément des gens qui sont trop tués. Au contraire, c'était des gens hautement civilisés. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire.
Ça va ? Oui, c'est très bien. Infatigable, hein. Je vous ai dit que c'était la gardienne du temple. Effectivement, aujourd'hui, peut-être que les musulmans manquent de saints. De cet esprit.
Et non, ils les ont tués symboliquement d'abord, et maintenant réellement.
Voilà. C'est tout un pan de l'histoire justement qui est occulté, qui n'est pas enseigné, qui n'est pas véhiculé dans l'enseignement et dans l'éducation en Algérie, au Maroc, en Afrique du Nord. Est-ce que vous voulez participer à un petit débat? Si vous avez des questions, des réflexions.
Oui. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'intervention. En fait, ma question, c'est justement, je voulais savoir, depuis 62, on ne parle plus de cet islam de tolérance, mais plutôt d'un islam politique. Donc, qu'on subit depuis 62, que la Kabylie notamment subit, sur les 15 000 mosquées en Algérie, on trouve presque la moitié juste à Tizi Ouzou. Donc, est-ce que l'islam politique, justement, n'accélère pas la perte de la culture kabyle?
Bah oui, c'est le but du propos, mais bien entendu. Parce que là, c'est un islam villageois. Hein, d'accord, il est Cheikh Mohammed des musulmans comme tout un chacun, je veux dire. Mais cet islam a été nourri par une culture, par une pensée, par des modes de vie. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez suivi, parce que bon, j'ai dit tellement de choses. Et pour moi, à un moment donné, et là, j'avoue que j'ai pris conscience qu'il y a très peu de temps, on ne peut pas devenir saint en Kabylie si on ne parle pas la langue, si on ne connaît pas les coutumes. Si, ce n'est pas possible. Vous voyez ? Ces gens dont on dit qu'ils viennent d'ailleurs et ils ne connaissent que le dôme, c'est faux. Donc, on ne peut pas être un véritable saint, jouer un rôle. Quand je dis pour moi la sainteté, c'est comme Cheikh Mohammed, hein. C'est quelqu'un respecté, c'est quelqu'un qu'on adore au sens de ibada musulmane, c'est quelqu'un qui rend service, quelqu'un qui protège, vous voyez. Effectivement, ce genre de saint, aujourd'hui, s'il était encore en vie, oui, je crois que les pouvoirs politiques le combattraient parce qu'il leur ferait de l'ombre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, et cet islam politique, je suis d'accord avec vous, ben il a commencé, non, je pense qu'il a commencé depuis les années 30, avec les ulama déjà. Depuis, idéologiquement, il a commencé depuis les années 30, et depuis 62, c'est vrai qu'on va préférer un islam venu du centre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez en Algérie, moi j'ai été dans les 70-80, et bien les imams, d'ailleurs on les appelait les imams CCP, des imams payés par l'État, qui prenaient le discours du vendredi, qui lisaient un discours qui venait du FLN, rédigé pour eux. Et les imams CCP, et bien eux, par exemple, moi je ne vois pas d'inconvénient, et bien ils disaient que la réforme agraire était musulmane. Vous comprenez? Donc ils justifiaient le programme politique en s'inspirant, soi-disant, de l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis tout à fait d'accord pour dire, effectivement, on a vidé l'islam, et ça a commencé depuis le Moyen-Âge, On a vidé l'islam de la philosophie, on a vidé l'islam de la culture, pour ne s'inspirer que de règles, finalement, qui n'ont rien à voir avec les gens. On n'oublie pas à une règle, on oublie une philosophie, on oublie un esprit. Et le cheikh Mohamed, c'est pour ça que j'ai pris ce cas-là. Voilà, donc, ce type-là n'a pas été à l'école, il n'a pas étudié, Socrate, il ne connaît pas Platon, c'était absolument pas son souci, mais n'empêche qu'il avait une philosophie digne de ces gens-là. Parce que la philosophie des anciens Grecs, c'est une philosophie qui était tirée du mode de vie, de la pratique. Et là, je vous renvoie à un livre de Pierre Roudot qui parlait de cette philosophie très ancienne qui était celle-là. Une philosophie qu'on tient. Non, mais là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis là, les islamistes n'ont fait que continuer sur un... Voilà, sur un...
Je veux dire, alors, l'islam tel qu'il est pratiqué actuellement, c'est un danger pour la société kabyle qui est, fragilisée par... cet islam.
Oui, pas seulement Kabyle, pour toutes les sociétés. Oui, pour la société Kabyle en particulier.
Le plus, c'est la Kabyle.
Oui, mais non, mais tu es obligé de généraliser un peu, parce que sinon. Non, moi je pense que la Kabylie, mais aussi, pire encore, les villes. Les villes parce qu'elles n'ont pas de racines. Tu vois? Les villes n'ont pas de racines. Les villes ont été dépersonnalisées. Et donc, l'école n'offre pas les instruments de pensée, déjà. Même l'école en enseigne, je ne sais pas combien d'heures d'islam. Et la télé est nulle, la lecture n'existe plus. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on essaye de prendre les moyens qu'on vous offre. Et c'est malheureux. D'ailleurs, la plupart, ce qu'on appelle communément les terroristes ou autres, viennent en général des villes ou de l'immigration. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce terreau-là, il n'y a pas cette compréhension-là, ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Donc, voilà, ils prennent du prêt-à-porter.
Merci.
Je pense qu'à Berger, vous voulez peut-être parler du fait que l'islamisme en Kabylie a été implanté tout récemment, parce que c'est une volonté politique pour peut-être empêcher la résurgence démocratique, plutôt les mouvements démocratiques en Kabylie.
L'aspect révolutionnaire du Kabylie.
Comment?
L'aspect révolutionnaire du Kabylie. C'est d'un Kabylie.
Oui, je pense qu'il y a de ça aussi, bien sûr, tout à fait.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame,
je vous en prie. Moi, je voulais savoir, ça a été dit et ça m'a échappé, par quels écrits, par quels témoignages vous avez pu récolter tout ça?
Écoutez, il est mort en 1901, donc ça ne fait pas très longtemps, ça n'est pas très longtemps par rapport aux périodes antérieures. Il faut savoir qu'il est resté très vivant dans les mémoires. Tous les vieux et les vieilles connaissent un vers, deux vers, un épisode. Et donc il y a eu quelques épisodes qu'on retrouve ici et là. Mais celui qui a fait un travail important, c'est Mouloud Mamri qui a recueilli donc les dits de Cheikh Mohamed, que j'ai édité d'ailleurs en 1989. C'est pour ça que je vous dis, je connaissais cet homme depuis longtemps, mais moi-même, je ne me suis pas intéressée. Je voyais que le côté d'Herbamri n'a pas vu ce côté-là entre nous.
Il n'avait pas
vu ce côté-là. Donc c'était simplement la poésie. C'était simplement la sagesse, la poésie, le dépassement de la vie quotidienne. Et c'est maintenant que je viens de voir ça. Il a collecté parmi tant d'autres, il y en a d'autres encore, mais Mamri a recueilli le plus grand nombre de textes. Voilà.
À vrai dire aussi, je veux dire que nous aussi, on avait, quand on avait connaissance des saints, on les voyait justement à travers la poésie et pas justement à travers la religion.
Voilà, exactement. Voilà.
Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Écoutez, je vais essayer, mais si j'ai le temps et si j'ai le courage. Mais j'aimerais travailler cette fois sur les femmes, il y en a marre. Il n'y a que des hommes, là. Hein. Hein, il faut casser tout ça, maintenant. Hein.
Est-ce que vous auriez entendu parler du Mabinet dans la région du Dara, vers Ténès, enfin.
De?
Du Mabinet.
Ah non. Non, je sais. Oui, je connais. Non. Ben justement, mais chaque...
Les magnets, en principe, d'après la légende, ce qu'elle part de légende de réalité, ce serait une femme qui serait arrivée de voir un naufrage d'un bateau hollandais, je ne sais pas quoi, sur les côtes.
Je connais l'histoire, mais je ne connaissais pas le nom. Oui, effectivement, je connais.
Elle était plus ou moins infirmière, je ne sais quoi, et qu'elle a prodigué ses bienfaits, les gens...
Sanctifié, oui, ça existe. Non, j'ai entendu parler de l'histoire. Il y a ça, et puis il y en avait aussi une du côté de Tixirt, trois nonnes qui venaient de Torremolinos et qui sont restées dans le village. Ils ont fait des petits, les nonnes, elles sont converties à la vie. Voilà.
On a une histoire fabuleuse hein, qui est méconnu. Donc, c'est pour ça que Tessadit Yacine ne peut pas tout faire.
Oui, voilà, exactement.
On va dire, Tessadit a travaillé avec Mouloud Mamri, pour ceux qui le connaissent, qui est un des premiers, j'allais dire, anthropologues contemporains, quoi, plutôt de l'ère... et qui a essayé de former, d'initier des chercheurs, des étudiants à s'intéresser à l'histoire de l'Afrique du Nord, à la restituer d'une façon, j'allais dire, fidèle et authentique. Est-ce qu'il y a encore une question? Sinon, j'ai bien envie de vous parler un tout petit peu de la production de Tessadit Yacine. Non? Aucune question? C'est bon? Oui?
Parce qu'il disait lui que c'était le plus grand drame qu'a fait la colonisation, la disparition du jeu pour le nous. Dans un de ses textes, j'ai parlé justement de. J'ai beaucoup aimé le singulier et l'universel. Je le dis à vous, madame, parce que je sais que vous l'avez beaucoup lu.
Et quel texte celui de.
De Mamri sur le singulier et l'universel.
Oui,
justement, dans un premier temps, il voulait se rapproprier le jeu. Quand il a été dépossédé, je pense que c'est ce qui fait son côté brillant, quoi. Mais il voulait démontrer, je pense. Mais je voulais savoir, mais ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'héritage. Parce que je pense que c'était un très très grand monsieur. Je pense que je voulais savoir s'il y avait de l'affiliation, est-ce qu'il y a des enfants de Mamri aujourd'hui, par exemple. Je pense que c'est pas un hasard si je pose cette question. Parce que je pense que si demain il y a une relève, il y a une. Fierté retrouvée en Kabylie qui pourrait être un phare comme ça.
Vous parlez des enfants de Mamri au propre ou au figuré?
Non, au figuré, bien sûr. Des enfants, moi je parlais des... Voilà, je parlais de vous, par exemple, vous voyez, Jacques Millet et tout un tas d'autres, de Djaout, par exemple, je pense qu'ils étaient dans la droite file des grands messieurs comme ça. Qui seraient... Je pense que c'est ça aussi le problème en Algérie, plus que l'islam d'importation. Je pense que. Déjà, comme vous l'avez si bien dit, Rahmani, par exemple, c'était quelque chose de c'était une école soufie qui était dans ma région. Enfin, moi, je, voilà. Comment on peut retrouver ce terreau qui existe? Vous avez raison, qui existe, qui est vrai.
Ben là, comment faire êtes, parce que vous êtes en train de me dire comment naissent les vocations. Moi, je ne peux pas vous le dire ça. Ben oui. Oui. C'est-à-dire que voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, ce que vous soulevez là est une question, on en a parlé de ça tout à l'heure, c'est un peu dramatique. Ben, pour la relève, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que C'est au moment où la langue est reconnue en Algérie, elle est reconnue au Maroc, et l'Algérie, je dois le dire, hein, était en avance sur les Marocains. Et aujourd'hui, eh ben, on se retrouve à la traîne. Les gens, bon, je comprends qu'il s'est passé ce qui s'est passé.
Comment vous l'expliquez ça, par exemple ? Parce que c'est vrai, on était en Algérie, justement, dans ce combat de l'identité, enfin, je vais pas dire de la culture, voilà. Parce que les politiques, après, ils ont fait une question politique, les arabisants.
C'est ça.
Voilà,
les arabisants, et pas seulement les arabisants, c'est les berbères.
Oui,
c'est aussi berbères, écoutez. Ils ont investi la culture politiquement, mais culturellement, ce n'est pas leur souci. Il faut le dire aussi. Hein. Il ne faut pas que nous soyons toujours les victimes.
Non, mais c'est quand même, c'était la bande des cinq, là, c'était bien Boudienne, voilà.
Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais Mamri était vivant à cette époque-là. Il était seul et il a essayé de faire des choses. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, les portes sont ouvertes. Hein. Y a des moyens, pas comme on aurait voulu, mais il y a des moyens, et les gens ne le donnent pas autant, c'est ça. Moi, quand j'allais faire mes enquêtes, c'était clandestinement. Vous voyez, donc j'allais en catimini, je ne disais jamais ce que je faisais d'ailleurs, mais au jour d'aujourd'hui, vous pouvez aller faire de la recherche en Kabylie, vous pouvez aller dans le Sousse, vous pouvez aller dans la classe, vous pouvez, mais les gens n'ont plus la même volonté. Vous comprenez ? Ils attendent. Ils attendent une assistance des pouvoirs publics. Ils ont raison, il faut revendiquer. Mais si vous attendez que ça vienne, eux, ils attendent que ça meure. C'est ça ce que je veux vous dire. Vous voulez que ça vive, mais eux, ils attendent doucement que ça meure.
Voilà. Vous savez, moi je suis inquiet parce que la nature a pas défait du vide.
Je sais.
Voilà, il y a la création du mal qui a...
Vous voyez, oui, mais je dis sur le plan politique, il n'y a pas de souci. Ils font ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent, mais au niveau culturel, c'est vraiment et un peu. Enfin, moi, pour le moment, c'est le creux de la vague. Voilà.
Et est-ce que Boumediene Chateta, pas celui.
Kabyle, non, berbère, oui.
D'accord.
Voilà. Mais vous savez, c'est pas les origines qui déterminent, hein, c'est la prise de conscience. Hein. La prise de conscience. Mais lui, il était plutôt. Arabiste, tourné vers l'Orient, formé dans des zaouias, voilà. C'était pas son souci.
Justement, à propos de dévocation, je pense que si l'État algérien, ou l'État marocain, je ne sais pas, au Maroc si c'est pareil, ne met pas les moyens qu'il faut, en tout cas des moyens. De subventions ou d'aide à
la recherche.
À la recherche, bien sûr. Donc,
c'est
aussi, un étudiant, il se pose aussi la question de...
Comment il va vivre.
Et c'est sûr qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a la possibilité de faire, est-ce qu'on est capable de produire convenablement, d'une façon, j'allais dire, sereine et,
voilà.
et authentique
voilà.
C'est ça le problème. Effectivement, moi, quand j'ai connu Tessa Titiassine, tout à l'heure, on en parlait, elle était au CRAP, au Centre de Recherche d'Anthropologie, et moi, j'étais étudiant à l'École des Beaux-Arts, qui n'était pas très, très loin. Et j'allais à la bibliothèque, et il y avait des séminaires, pour moi, qui étaient clandestins, qui n'étaient pas affichés, dans les sous-sols. Et moi, je n'étais pas autorisé, donc je me retrouvais entouré de Tessa Titiassine, Salem Chaker, et Antonio Cubio, qui était un Canarien, qui était berbère des îles Canaries. Donc tout ce monde-là, effectivement, œuvrait clandestinement, et c'était interdit.
C'est ça.
Voilà. À Alger. C'était, voilà. Et moi, je découvrais un monde interdit. On m'interdisait d'apprendre à se connaître, quoi, de connaître cette culture-là. Et là, c'est là où on pose le problème, justement, de l'État, la responsabilité de l'État, qui justement, ne met pas en œuvre, au lieu, justement, on fait connaître l'islamisme, on encourage l'islamisme, on encourage à construire des mosquées, mais on n'encourage pas. C'est pour ça qu'on encourage aussi, comme disait tout à l'heure l'étudiant, je pense que Abderrazak, il voulait dire aussi, on construit des mosquées en Kabylie pour nuire à la culture. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le Kabylie a toujours été, j'allais dire, le bouc émissaire de l'État. C'est-à-dire que quand on veut chercher un problème, on va le chercher en Kabylie. L'antislamisme, il venait de la Kabylie. Le vœu démocratique venait de là-bas aussi. Et c'est pas rien. C'est-à-dire que moi, je veux rappeler quand même Mouloud Mamri. C'est à cause de lui, je dis vraiment à cause de lui, qui est né un peu la conscience, et j'allais dire la révolution des étudiants qui a été réprimée.
1880.
Vous imaginez, on organisait à Tizi Ouzou première conférence sur la poésie de Sibou Hamhad.
Non, c'est même pas Sibou Hamhad, c'est poème.
D'accord. Poème kabyle ancien qui a été réprimé par l'État algérien, vous imaginez. Et toute la Kabylie s'est réveillée, s'est levée pour manifester justement son soutien à la tenue de cette conférence, et qui a été réprimée dans le sang. Et depuis les années 80, il y a toujours cette volonté-là de l'État algérien, bien sûr, de nuire, de folkloriser au sens négatif du terme, c'est-à-dire de la société kabyle, la culture kabyle, et bien sûr, au-delà de la Kabylie, toute l'Algérie, et qu'on n'est pas les seules victimes. Le travail de SAP, il a été fait dans toute l'Algérie. La résistance, effectivement, elle est kabyle. Aujourd'hui, effectivement, avec la... il y a eu quand même, des points de gagner. On a gagné quand même des batailles. Hein. Ces gens-là ne sont pas morts pour rien. Et il y a effectivement une reconnaissance de la langue berbère, de la culture berbère. Mais il reste à édifier, des écoles, des instituts, à former des chercheurs. Et aussi à pouvoir aujourd'hui produire dans sa langue, convenablement, comme des citoyens universels, comme le font les Français, les Anglais, etc. Avoir de vrais instituts, de vrais outils de production. C'est pour ça que nous, on encourage à la création contemporaine. Et c'est bien aussi de se référer à l'ancien, parce que l'ancien, on le connaît, on ne le connaît pas. C'est-à-dire que nous, on a comme ça des bribes comme ça de Cheikh Mohand, etc. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était un poète. Je n'ai jamais pensé que c'était un religieux. Moi, j'ai jamais vécu, je suis athée, voilà, je le dis, j'ai jamais vécu dans un encouragement religieux. J'ai toujours été, au contraire, encouragé dans une volonté culturelle, identitaire culturellement, mais pas religieusement, à aucun moment. Et pourtant, on avait quand même des petites fêtes religieuses. Mais pour nous, c'était juste des moments de fête, mais jamais une fête qui avait plutôt une chape religieuse. Alors, si vous n'avez pas de questions, j'ai bien envie. Oui.
La période dont vous parliez avec ces conférences,
séminaires, interdits, hein,
c'était dans quelles années ?
Les années 80, 85.
Alors, j'ai envie de vous parler quand même ce qui est intéressant, parce que Tessa Di Tiassine aussi œuvre, a continué à œuvrer. Aujourd'hui, elle œuvre en France. À Paris, et elle va dans des séminaires à travers le monde, et à chaque fois que je l'appelle, elle me répond au téléphone, même si elle est en Sicile. Elle s'intéresse à Tafsout, et donc Tafsout œuvre aussi dans cet état d'esprit de faire connaître ce pan culturel et cette identité culturelle, et au-delà de ça, de parler des libertés individuelles, hein, au sens large du terme. Et quand on parle de culture berbère, c'est pas du communautarisme, c'est quelque chose d'universel. Les libertés, aujourd'hui, elles sont en danger. Aujourd'hui, on commence un peu à prendre conscience que le danger, il est partout. Donc, pour aller droit au but, l'islamisme est un grand danger pour nous. Voilà. Il est instrumentalisé, etc. Ce dont j'ai envie de parler, c'est de la production de Tessa Di Tiassine, de la revue Awel, que je pense que tu as... produite à l'origine avec Pierre Bourdieu, non ? Mabri et Pierre Bourdieu. Et voilà, que je vous encourage à consulter. Et surtout le dernier né, parce qu'on a parlé de religion. Tessa Di Tiassine a recueilli dans les années 80 des contes kabyles qui sont peu vulgarisés sur l'amour. Hein, sur l'amour. Donc c'est le dernier né de Tessa Di Tiassine qui est là, si ça vous intéresse, si vous voulez consulter, si vous voulez transmettre, c'est là, voilà. Autre chose, j'ai envie de aussi te dire, c'est la deuxième fois qu'elle nous parle de ça. La première fois, c'était pour... Bon, c'est un saint, j'allais dire. Imagé, hein, je parlais de Jean Abrouche.
Ah, d'accord.
Et c'était au musée des Beaux-Arts d'Alençon, on s'est retrouvé autour de toiles.
Oui,
voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve dans un endroit artistique, en hommage, je vais dire, aux artistes, hein, et on s'est retrouvé dans un musée officiel, en parlant de Jean Amrouche, encore une fois un intellectuel kabyle, qui a œuvré aussi bien pour la culture, j'allais dire, française, si on veut, hein, qui a fait connaître Camus, qui a été un des premiers chroniqueurs sur France Culture, écrivain, il était journaliste au Monde, etc. Et des gens méconnus comme ça, comme, tout comme Shir Mohand. Donc pour moi, ça reste des saints symboliques. Alors, quelque chose à dire ou rien ? Sinon, ce que j'ai à vous proposer après, c'est de vous rapprocher de Tassane Yassine, si vous voulez lui parler. En attendant, si vous voulez vous restaurer, vous pouvez vous restaurer. Et à 20h45, il y aura Ali Amran, qui est venu de Finlande, quoi, qui vit en Finlande, qui est resté à quelques... Il est en tournée en France, en particulier, et en Algérie, je pense, et qui est venu nous rendre visite. Voilà, c'est des gens qu'on appelle et qui répondent qui viennent nous aider, à vrai dire, voilà, et qui sont sensibles aux faits culturels et aux dangers, hein, qui nous guettent. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un festival de solidarité, hein, c'est un festival qui j'espère, en tout cas là pour nous c'est une première, perdurera grâce peut-être aux autorités politiques. Qu'on va peut-être solliciter, et au public aussi. Voilà. Alors, on a un public, qui est peut-être non kabyle, non berbère, non nord-africain, mélangé. C'est, voilà. Pour nous, c'est important d'être une société universelle, et c'est dans ce sens-là aussi qu'on travaille. Je vous remercie. Merci énormément, Tassadit Yassine, d'être venue. Elle est arrivée à peine du train, elle a fait sa conférence, elle nous a fait la même chose, elle est arrivée de Pau jusqu'à Alençon. Dans la foulée, nous a fait la conférence sur Jean Amrouche, infatigable. Merci beaucoup. Merci à toi.